Alors, si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Genèse, le chapitre 10, les versets 1 à 32, autrement dit, tout le chapitre. Genèse, chapitre 10, versets 1 à 32. Alors, on va le relire, et après, on fera une revision de ce qu'on a vu la semaine dernière, dans la première partie, et on devrait le terminer aujourd'hui. Alors, voici les descendants des fils de Noé, Sem, Cam et Japhet, auxquels naquirent des enfants, après le déluge. Les fils de Japhet sont Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tsiras. Et les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha et Tarsis, Kittim et Dodanim. Par eux furent peuplées les îles des nations dans leur terre, chacun selon sa langue, selon leur famille, selon leur nation. Et les fils de Cam sont Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Et les fils de Cush, Seba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Et les fils de Raïma, Sheba et Dedan. Et Cush engendra Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pour cela qu'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Et le commencement de son royaume fut Babel, Érech, Akkad et Calné dans le pays de Shinéar. De ce pays-là, il sortit en Assyrie et il bâtit Ninive, Rehoboth-Hir, Calac et Rézem entre Ninive et Calac, c'est la grande ville. Et Mitzraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Lehabim, les Naphtuhim, les Patrusim, les Kalushim, d'où sont sortis les Philistins, et les Kaphtorim. Et Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Héviens, les Archiens, les Siniens. Les Arvadiens, les Samériens, les Hamathiens, ensuite les familles des Cananéens se dispersèrent. Et la limite des Cananéens fut depuis Sidon, en venant vers Guérar jusqu'à Gaza, en venant vers Sodome, Gomorre, Adma et Tseboïm jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cam, selon leur famille, selon leur langue, dans leur terre, dans leur nation. Il naquit aussi les fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère aîné de Japhet. Les fils de Sem sont Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram, et les fils d'Aram, Uth, Ul, Geter et Mash. Et Arpachshad engendra Shélakh, et Shélakh engendra Héber. Et à Héber, il naquit deux fils. Le nom de l'un est Péleg, partage, car en son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère, Joktan. Et Joktan engendra Almodad, Shelef, Atsar, Mavet et Gérak, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Avila et Jobal. Tous ceux-là sont des fils de Joktan. Et leur demeure était depuis Mécha, en venant vers Shephar, vers la montagne d'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur terre, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, dans leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations de la terre après le déluge. Alors, on va demander au Seigneur de bénir notre étude. Seigneur, nous sommes tes enfants, nous sommes venus aujourd'hui adorer ta glorieuse et sainte personne. Nous sommes venus aussi entendre ta parole. Nous sommes venus aussi avoir de la communion fraternelle avec nos frères et nos sœurs. Et Seigneur, nous savons que pour profiter pleinement de cette bénédiction que tu nous accordes, il nous faut la présence manifeste de ton Saint-Esprit parmi nous. Alors Seigneur, on te demande pardon pour tous nos péchés, de quelque nature qu'ils soient, que l'on a commis depuis la dernière fois que nous sommes venus au trône de la grâce. Afin de retrouver la pleine communion avec toi et que tu déverses sur nous une bénédiction abondante aujourd'hui, qu'on comprenne ta parole et qu'on en saisisse tout le sens et toutes les leçons pratiques que tu veux nous enseigner pour nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. On te demande aujourd'hui cette bénédiction. C'est en Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qu'on prie. Amen.
Amen.
Alors, on avait intitulé le sermon « Les nations, des outils prophétiques de Dieu ». Je pense que l'idée fondamentale du chapitre 10, c'est vraiment de faire un lien entre Genèse 3.15, où un petit peu avant Genèse 3.15, on avait eu la chute. Après Genèse 3.15, c'était comme la promesse divine d'envoyer éventuellement un Messie. Bien entendu, si on veut comprendre qu'éventuellement le salut s'étend à toutes les nations de la terre, il fallait qu'à quelque part le Seigneur nous montre que c'est par les fils de Noé, qui sont trois fils, Japheth, Cam Cam, Japheth et Sem. Alors les trois fils, que c'est par eux que le Seigneur a utilisé, c'est par eux que le Seigneur a permis que les hommes se répandent sur toute la terre. Et le chapitre 10 est extrêmement important pour plusieurs raisons, comme on avait mentionné la semaine dernière. Les généalogies dans la Bible, on le sait, on l'a mentionné aussi dans notre dernière leçon, sont souvent négligées, parfois même méprisées, parce qu'on passe par-dessus, on se dit « Ah, pas pour me taper 16 chapitres d'énumération de noms ». Cependant, toute écriture est inspirée de Dieu, comme le Seigneur l'a dit dans 2 Timothée 3.16, et ils ont leur place, leur rôle, leur fonction. Alors, on se doit de corriger cette grave erreur que de passer par-dessus et de penser que ça n'a aucun rôle, que ça n'a pas vraiment sa place dans les Écritures. Alors, on avait vu leur utilité dans plusieurs idées. On va les réviser rapidement. La première, l'utilité des généalogies, c'est d'assurer la vérifiabilité des promesses. Alors, on peut prendre une promesse de Dieu et la suivre dans tout l'ensemble des Écritures, et on voit que par les généalogies, on peut arriver à voir cela. Parce que, justement, quand on prend la leçon d'aujourd'hui et qu'on va dans d'autres parties des Écritures où on nous parle, de l'origine de Christ, par exemple, on voit que tous les noms qui sont mentionnés dans le chapitre 10 sont aussi mentionnés ailleurs, dans d'autres chapitres où on veut parler de l'origine du Messie. De là, l'idée que je vous ai dit que, dans le fond, le chapitre 10 est placé là pour une raison très précise, pour nous montrer que le salut, Dieu avait prévu dans son plan original qu'il s'étende à l'ensemble des nations de la terre. Alors, assurer la vérifiabilité des promesses, aussi voir comment le Seigneur accomplit ses prophéties. Il y a des prophéties tout partout dans les Écritures. Il y a une partie des prophéties qui sont mentionnées dans les Écritures qui sont déjà accomplies. Par exemple, « Et toi, Bethléem, Ephrata, de toi naîtra... » Alors, Bethléem, Ephrata, c'était une prophétie qui était en train de dire que Jésus, le Messie, viendrait au monde dans un petit village qui s'appelait Bethléem. Et c'est plein comme ça. Il y a des centaines de prophéties, et on peut savoir par tout cela que le Seigneur accomplit ses prophéties. Un exemple. Genèse chapitre 9, on l'a déjà étudié. Le Seigneur avait dit, suite à la chute de Noé dans l'ivresse et le comportement des trois fils, le Seigneur a fait des prophéties sur les trois hommes, non pas seulement sur eux personnellement, mais sur leur descendance. Et ce n'est que par les généalogies, souvent, qu'on peut voir, les généalogies et d'autres informations qui sont mentionnées dans les Écritures, qu'on peut voir la réalité de ces choses-là. Autre chose auxquelles ils servent, c'est de nous dénoncer certains mensonges du monde, par exemple, l'évolution, le vieillage de la terre, le racisme. On a vu qu'on pourrait démontrer par les Écritures que le racisme est une théorie qui ne peut pas trouver de fondement dans les Écritures, bien au contraire. Et aussi, elles vont contribuer à manifester la force de la providence divine dans le gouvernement des peuples de la terre et dans l'établissement des frontières. On avait vu la semaine dernière, non seulement le Seigneur a permis, a voulu, parce que dès les débuts de la Genèse, le Seigneur avait dit aux hommes de se répandre sur toute la surface de la terre. Et on a vu qu'il y a eu des tentatives de la part de l'homme de ne pas obéir au Seigneur. On va le voir dans le chapitre 11, par exemple, où Nimrod va vouloir construire la tour de Babel, et l'idée était de, nous, on ne veut pas s'étendre, on veut rester ensemble et construire, autrement dit, la grande ville. C'est un petit peu mentionné dans le chapitre 10. Alors, la providence divine, Dieu avait voulu que les hommes se répandent sur toute la terre. Les hommes ont voulu mettre des barrières à ça, ils ont voulu mettre des obstacles, des freins à tout cela. Mais le Seigneur a toujours permis, par toutes sortes de moyens, que ça finisse par se réaliser. Et elles sont aussi, les généalogies christocentriques. Expliquent, par exemple, ils vont souvent expliquer l'origine de Christ et ce qu'on appelle sa descendance. La descendance de Christ, on le sait, c'est qui? C'est nous. Alors, dans Matthieu 1 et dans Luc 3, on a des généalogies. Et si on prend le chapitre 10 et qu'on fait des comparaisons avec ces chapitres-là, Matthieu 1 et Luc 3, on voit les noms qu'on est en train de regarder ce matin qui vont se répéter et qui vont être des repères pour nous. Alors, de là l'importance des chapitres. On peut passer sur le chapitre 10 et trouver ça plate, excusez le mot, là, mais c'est de même que parfois on a le sentiment face à des chapitres comme cela. Pourtant, ils sont d'une extrême importance pour comprendre bien des choses qui vont se dérouler par la suite. Et on avait vu la semaine dernière aussi que non seulement les Écritures contribuent à tout cela, là, les généalogies, mais que les scientifiques eux-mêmes, là je ne parle pas de scientifiques chrétiens, je parle de scientifiques. On a parlé la semaine dernière des ethnographes. Qu'est-ce que c'est un ethnographe? C'est quelqu'un qui veut savoir, ça sort de où ce que les nations, il y a des centaines de nations sur la terre, avec des langues différentes, avec des cultures différentes, ça vient d'où? Bien entendu, par exemple, disons, ceux qui ont étudié l'histoire de la France, ben ils vont reculer le plus qu'ils peuvent, ils vont venir avec, ça va être les Francs, après ça, il va y avoir d'autres noms, et ça va finir, presque tous ceux qui ont fait des études approfondies sur l'origine des nations finissent par arriver à Genèse 10. C'est bizarre, hein? Moi, je trouve pas que c'est bizarre, je trouve que c'est la parole de Dieu qui est en train de démontrer que toujours, la parole a toujours raison. Je vous redonne ce que Albright avait dit la semaine dernière, rapidement. William F. Albright, qui est un réputé ethnographe et qui parle de la valeur du chapitre 10 de la Genèse comme ethnographe. Alors, un ethnographe, c'est quelqu'un qui est allé chercher des données sur l'origine des nations, mais dans les livres des hommes. Et après qu'il a tout fini de collecter ça et d'analyser ça, il vient comparer ça au livre de la Genèse et il dit, merveilleux, le livre de la Genèse, chapitre 10, avait tout dit. En un chapitre, toute l'histoire des nations est mentionnée là-dedans. Voici ce qu'il dit. Il dit, « It is an astonishing accurate document », en parlant du chapitre 10 de la Genèse. Donc, un document d'une précision ahurissante. Alors, les ethnographes qui étudient l'origine des nations, ils finissent toujours par arriver au chapitre 10 et le chapitre 10 démontre la vérité de toutes ces choses-là. Et une autre phrase qu'il a dit, Albright a dit, « Il n'y a aucun autre catalogue des anciennes nations qui soit disponible venant de toute autre source qui lui soit comparable. Il est sans parallèle dans son antiquité et dans sa compréhension. » C'est tout un compliment venant des scientifiques du monde. Autrement dit, il n'y a rien de comparable dans le monde pour expliquer l'origine des nations que le chapitre 10 de la Genèse. Alors, en passant, on peut voir la valeur sans limite des Écritures. Alors, on avait vu que le Seigneur, déjà, même quand il avait fait sa prophétie concernant Japhet, que l'idée d'inclure les nations dans son salut était vraiment existait depuis toujours. On avait vu la semaine dernière que dans l'Apocalypse, qui est le livre de la fin, autrement dit, là, toute l'histoire humaine est passée, on est rendu à la fin. Et on lit dans Apocalypse 7, versets 9 et 10, « Ensuite, je regardai, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient à haute voix, disant, « Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Alors, si on veut apprécier pleinement ce qu'il est en train de dire ici, autrement dit, déjà, c'était l'idée du Seigneur d'en arriver à cette grande vision-là qu'on voit à la fin, quand tout est réalisé, que le Seigneur avait déjà voulu que son salut s'étende aux nations. Maintenant, on sait que le Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, nous a dit, parce que là, il s'est passé toute la période entre... où ce qu'on est en train d'étudier, après ça, il va arriver Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et tout le déroulement de l'histoire d'Israël. Mais quand Christ est venu, est-ce que l'idée des nations était encore inclue dans son esprit? Bien sûr, Genèse 28, versets 18 à 20, « Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Autrement dit, il est en train de dire que notre travail comme Église, à partir de la venue de Jésus-Christ, c'est de continuer d'annoncer son nom et de faire des disciples et d'annoncer l'Évangile. Maintenant, on avait vu aussi que Genèse 12, à partir de Genèse 12, c'est l'arrivée d'un nouveau personnage qu'on appelle le Père des croyants, qui est Abraham. Dans Genèse 12, les trois premiers versets, le Seigneur fait une promesse à Abraham. Et voici, il dit, l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en hors de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Galates 3,16, c'est le verset classique pour vraiment comprendre qu'est-ce que le Seigneur disait à Abraham quand il parlait de sa semence. Dans Galates 3,16, voici ce que ça dit. C'est important parce qu'il y a un lien très réel entre le chapitre 10 et l'ensemble de ce qui est dit dans Galates 3,16. Or, les promesses, on parle de quelles promesses? Celles qui ont été faites dans Genèse 12, versets 1 à 3 qu'on vient de lire. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et à sa postérité » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule « et à ta postérité qui est Christ ». Autrement dit, toutes les promesses qui ont été faites à Abraham ont été faites à Christ et à ceux qui sont en lui. Autrement dit, ont été faites à nous, mais en passant par Christ qui est le centre de tout ça. Alors, dans les versets du chapitre 10, on nous apprend la chose. Dans le verset 5, par exemple, on nous dit, par eux, on parle de qui, là? Japheth. Il dit, par eux furent peuplées les îles des nations, dans leur terre, chacun selon leur langue, selon leur famille, selon leur nation. Et dans le verset 32, qui est le verset de conclusion, du chapitre 10, ça dit, « Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, dans leur maison, et c'est d'eux que sont sorties les nations de la terre après le déluge. » Autrement dit, l'idée principale du chapitre 10, c'est de démontrer que Dieu s'est servi des trois fils de Noé pour répandre les hommes sur toute la terre. Alors, on avait vu que le mot « Japheth » dans l'hébreu, ça veut dire qu'il étende. Alors, on a besoin de connaître la signification du nom, parce que dans les Écritures, les significations de nom sont extrêmement... Qu'il étende, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que Dieu se servirait de Japhet et de sa descendance pour étendre les hommes sur la terre et leur faire profiter également du salut. Alors, on avait vu qu'il y avait plusieurs descendants, Gomer. Et on pense que, d'après les études qui ont été faites, Gomer, ça serait les descendants de Gomer, seraient les Français, les Britanniques, les Espagnols et les Allemands. Si on étudie l'histoire de ces nations-là, on se rend compte que c'est souvent, par exemple, si nous on est ici, c'est parce que les Français sont venus ici. Au Mexique, pourquoi le Mexique existe? Parce que les Espagnols ont voyagé. Et c'est la même chose. Alors ici, on a les Français, les Britanniques, les Espagnols et les Allemands. Et on sait que si on étudie leur histoire, Gomer a grandement contribué à ce que le salut s'étende à toutes les nations de la terre. Après ça, on pourrait regarder un autre nom qui est important, Javan. Javan, c'est les Grecs. Quand Jésus est venu, quelle langue était courante sur l'ensemble de toute la terre? La langue grecque. Les Grecs avaient grandement contribué à étendre une civilisation et c'était un petit peu comme l'équivalent de l'anglais aujourd'hui. Les Grecs étaient la langue dominante de l'époque. Alors, les deux seuls fils qui sont mentionnés, les deux fils de qui on donne la descendance dans le chapitre 10, c'est Gomer et Javan. Si vous étudiez le texte d'aplomb, puis vous vous arrêtez, là. Gomer, alors on sait l'importance des Français, des Britanniques, des Espagnols et des Allemands, pour répondre, et aussi Javan, donc l'importance des Grecs pour étendre la civilisation. On parle à l'intérieur du texte des îles. Alors, si on prend Ésaïe 42, les versets 1 à 4. C'est une prophétie concernant la venue future de Jésus-Christ qui s'étendrait aux îles. Alors, ça dit, « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis sur lui mon esprit, il manifestera la justice aux nations. » Alors, on est dans le livre d'Ésaïe, Seigneur est en train de dire que Christ va manifester la justice divine aux nations. Et après ça, il dit dans le verset 2, « Il ne criera point, n'élèvera point sa voix, ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore, il manifestera la justice avec vérité, il ne se ralentira, ne se précipitera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et les îles espéreront en sa loi. » Déjà, on est en train de parler que le Christ... Et on était rendu là la semaine dernière, donc on a fait un petit résumé. Ésaïe 49, maintenant, continuait à parler encore une fois des versets 1 à 6 sur le fait que le Christ serait répandu chez toutes les nations. Ésaïe 49, ça se dit « Îles ». Écoutez-moi, peuple éloigné, prêtez l'oreille. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante et m'a couverte de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë et m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, j'ai travaillé enfin, j'ai consumé ma force inutilement et sans bruit et sans fruit, mais mon droit est auprès de l'Éternel et mon salaire est auprès de mon Dieu. Et maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob. Or, Israël ne se rassemble point, mais je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu a été ma force. Et le verset 6, c'est le verset important. Et il a été dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je fais de toi, il parle de Christ, là. Le Seigneur, il dit, le Père, je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'au bout de la terre. Alors, dans le psaume 72, je trouvais ça curieux ce matin, puis j'ai demandé à Francine, il y avait un verset quand vous êtes arrivé qui parlait que toutes les nations se prosterneront devant lui. J'ai dit, coudonc, est-ce que tu savais qu'on parlait des nations dans le chapitre 10, puis tu as voulu que le verset corresponde avec notre étude? Elle a dit, non, c'est un hasard, les hasards de Dieu. Alors, on parle des nations. Dans le psaume 72, et versets 10 et 11, les rois de Tarsis et des îles lui présenteront des dons. Les rois de Sheba et de Saba lui apporteront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Maintenant, on est rendu à Cam. On sait que Cam, les noms qui sont décrits là-dedans, sont souvent des personnages qui ont eu des descendances, qui ont été souvent des outils d'opposition au royaume de Dieu, au rayonnement du royaume de Dieu. Alors, on sait que Satan, lui, n'a jamais été resté inactif durant l'histoire. Il a souvent utilisé les nations pour s'opposer à Israël. Si vous lisez l'histoire d'Israël, dans tout l'Ancien Testament, qu'est-ce que vous voyez? Il y avait des nations autour d'Israël, et souvent, c'était des outils que le malin utilisait pour faire du tort à la nation d'Israël, ou même essayer même de l'éliminer, de la détruire. Alors, Cam a eu 4 fils. On ne rentrera pas dans les détails, il y a beaucoup de noms. Comme je vous ai déjà dit, on va avoir passé 2 leçons sur le chapitre 10, puis je suis convaincu qu'on pourrait en avoir resté 10 semaines, mais si on irait plus en détail. Mais dans le fond, le but ce matin, c'est de faire le lien entre le chapitre 10 et ce qui va se dérouler par la suite, que le Seigneur va vraiment étendre le salut à l'ensemble des nations. Alors, Sam a eu 4 fils, Cam, c'est-à-dire a eu 4 fils, qui sont devenus des nations qui ont joué des rôles importants dans l'histoire d'Israël. Vous avez sûrement reconnu quelques noms là-dedans, les Philistins. Oups! Les Philistins, est-ce que ça allume une petite lumière dans notre esprit, comme de quoi que les Philistins ont toujours été des ennemis d'Israël, ont toujours fait du trouble à Israël. Alors, l'histoire d'Israël, ils ont souvent été des opposants. Alors ici, on parle de Cush. On pense que les descendants de Cush ont été, dans le verset 7 à 12, les Éthiopiens. Mais il y a quelque chose qui est mentionné dans le verset 8 qui est d'une importance extrême si on veut continuer à comprendre ce que les Écritures disent sur le développement du royaume de Dieu après. On parle de Cush. Donc, Cush, est-ce que c'était un des 3 fils de Noé qui avait été béni ou qui avait été... Est-ce qu'il avait été béni, Cush? Non. Alors, est-ce que Cush, qu'est-ce qu'il va produire? Il va produire un personnage qui s'appelle Nimrod. Nimrod, ça dit, dans le verset 8, qu'il a commencé à être puissant sur la terre et qu'il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pour cela qu'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur de l'Éternel. Et le commencement de son royaume fut Babel. Ça vous dit quelque chose, ça? Babel, Babylone, Babel, Babylone. Et on retrouve ça jusqu'en Apocalypse, Babylone la Grande. Alors, il est en train d'introduire des noms de personnages qui étaient des personnes qui voulaient s'opposer au royaume de Dieu et ne pas obéir à ce que Dieu avait dit. « Étendez-vous sur toute la terre? » Lui dit, « Non, non, on se construit une tour, on fait des... » Dieu voulait que les hommes s'étendent toute la terre. Nimrod était un rebelle, son nom même. Alors, Cush fut le père de Nimrod. Et dans le verset 12, ça dit, là, il parle de toutes les villes qu'il a construites, Babel, Érec, il nomme plusieurs. Et après ça, il dit, entre Ninive, ça vous dit quelque chose aussi. Alors, le Seigneur est en train de préparer notre compréhension des événements futurs, pourquoi ces nations-là étaient des opposants au royaume de Dieu. Puis là, après ça, il finit le verset 12 en disant, c'est la grande ville. Est-ce qu'une grande ville, c'est pas l'opposé de s'étendre? C'est vouloir rester toute... On parle de certaines villes qui ont 15-20 millions d'habitants dans un petit rayon géographique qui alors ça produit des gens qui sont malades. En hébreu, le nom de Nimrod signifie « rebelle ». C'est important de garder ça en mémoire parce que ça va nous revenir plus tard. Alors lui, sa rébellion s'est exprimée envers Dieu lui-même par sa volonté de ne pas se répandre sur toute la terre et de développer son pouvoir autour des villes. Si vous regardez l'ensemble des versets, tout ce qu'il a voulu faire, c'est rassembler des villes, parce que quand il y a peu d'hommes qui sont rassemblés dans un petit cercle géographique, tu peux exercer ton pouvoir plus facilement sur eux que quand ils sont répandus sur des grands territoires. Alors, les Écritures disent qu'il fut un roi très puissant, qui était violent, ambitieux, impitoyable, dictateur, et autre chose qu'on ne voit pas à la première vue dans le texte, on parle de chasseur devant l'Éternel. On parle de chasseur d'hommes. Si vous regardez l'ensemble des commentateurs qui sont, je dirais, conservateurs, on va parler de ce verset-là comme voulant dire « il chassait les hommes ». Ça vous donne-tu une idée du caractère du bonhomme? Vouloir chasser des hommes comme on chasse des animaux. Alors ça, c'est vraiment dans le texte, apparemment que c'est dans l'hébreu qu'on peut voir ces idées-là. C'est pour ça que c'est si difficile à traduire parfois les Écritures, parce qu'il y a des expressions qui sont difficiles à rendre le sens. Alors l'expression « puissant chasseur devant l'Éternel » signifie que son activité était faite avec la volonté audacieuse et blasphématoire de défier Dieu ouvertement et publiquement. Autrement dit, son activité de vouloir s'opposer à Dieu de ce qu'il se répand, et toute sa violence, autrement dit, les dictateurs aujourd'hui gardent le pouvoir comment? Autrement dit, un des premiers dictateurs mentionnés dans les Écritures, c'est lui, Nimrod. Mais quand on regarde comment les dictateurs gardent le pouvoir, dans quelque société que ce soit, c'est toujours par la violence. C'est toujours, toujours, toujours par la violence. Mais ça pourrait arriver qu'un dictateur fasse son activité, mais qu'il le fasse uniquement pour sa propre personne. Voyez-vous? Mais lui, Nimrod, c'était plus... son activité se faisait de façon publique et de façon audacieuse de défier Dieu ouvertement et publiquement. Voyez-vous le caractère? Autrement dit, il est en train de dire à Dieu, écoute bien, là, moi je vais faire ce que je veux. Puis il faisait ses péchés ouvertement avec défiance. Alors ça nous montre un petit peu qu'il y a toujours eu une certaine lignée de l'humanité qui auront eu ce type de comportement et de caractère-là. Ça existe encore de nos jours. On le voit dans certaines sociétés, les dictateurs en général, il y en a qui n'hésitent pas à tuer des centaines de milliers de personnes juste pour maintenir leur pouvoir. Et on a un autre nom qui est mentionné. On ne passera pas tous les noms en général, mais on va regarder les noms les plus importants. Donc Nimrod, parce que ça fait une relation avec Babel, Babylone. Un autre nom qui est mentionné, c'est celui de Mitzrayim. Mitzrayim, c'est les Égyptiens. Dans le verset 14, vois-tu, et Mitzrayim engendra, et là, ça dit, les Ludiens et tout ça. Et le verset 14, les Parutsim, les Kadushim, et ça dit entre parenthèses, d'où sont sortis les Philistins. Donc les Philistins, ils sortent de où? Des Égyptiens. Et les Égyptiens ont toujours été une nation, en général, qui se sont opposés au développement de l'histoire, au développement du royaume de Dieu. Alors, l'Égypte et les Philistins ont joué un grand rôle dans l'histoire du peuple d'Israël. Et il y a un autre nom, on pourrait parler nom par nom et aller plus loin, mais on va aller dans les noms les plus importants, les noms qui sont significatifs, qui nous aident à comprendre le reste des Écritures. On a Canaan. On dit, quand Josué a quelle terre qu'il a conquise? La terre qui était déjà possédée par les Cananéens, et les Cananéens étaient rendus à un degré de pourriture morale tel que le Seigneur a dit, c'est au peuple d'Israël, c'est à vous que je donne cette terre-là, et sortez ces gens-là. On a vu qu'ils l'ont fait en partie, jamais à 100%. Alors, les Cananéens ont un rôle important, mais regardez les versets 16, 17, 18, on va y aller rapidement, mais si vous avez lu la Bible au complet, vous allez sûrement reconnaître des noms que Dieu parle là-dedans. Les Jébusiens, les Amoréens, les Guirgasiens, les Héviens, les Arkiens, les Siniens, toutes des nations qui ont été des on pourrait dire en bon québécois, des troublemakers dans l'histoire du peuple d'Israël. Le pays des Cananéens, dans Genèse chapitre 17, et là, quand on dit que les généalogies ont une raison, c'est parce que c'est en train de nous préparer à la compréhension des chapitres qui s'en viennent. Comment on pourrait comprendre le chapitre 11, par exemple, qu'on va commencer à étudier la semaine prochaine? Chapitre 11 qui dit un petit peu plus en détail l'histoire de Nimrod. On avait parlé la semaine dernière qu'on parle dans le chapitre 10 des nations, alors que c'est seulement dans le chapitre 11 qu'on explique l'origine des nations. Nimrod a voulu construire une tour, une Babel, c'est là que le Seigneur a envoyé son jugement de confusion et qui les a forcés ensuite, les hommes, à obéir à sa volonté de se répandre sur toute la terre. Genèse 17, verset 8, faisait une prophétie concernant la terre de Canaan. Voyez-vous, le Seigneur dit à Abraham, le père des croyants, « Et je donnerai à toi et à ta postérité après toi. » De qui il parlait, là? Des Juifs. Il parlait que Abraham était pour leur donner une terre. « Et je donnerai à toi et à ta postérité après toi le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan. En possession perpétuelle, je serai leur Dieu. » Voyez-vous, tout le chapitre 10 est en train de nous préparer à des choses qui vont arriver plus tard. Jean est en train de nous faire une étude sur Josué, mais Josué, c'est les Cananéens qui sont sortis du pays, entre autres. Alors, le Seigneur a dit qu'il avait promis et il a réalisé sa promesse. Exode, chapitre 13, verset 5. Alors, après la sortie d'Égypte, le Seigneur avait fait une promesse au peuple d'Israël concernant Canaan. Et il dit, « Quand donc l'Éternel t'aura introduit au pays des Cananéens, voyez-vous, des Hittiens, des Amoréens, des Héviens, des Jébusiens, on vient-tu de voir ça, ces noms-là? » On vient de voir. Il dit, « Qu'il a juré à tes pères. » Dieu a juré à tes pères de donner la terre qui était occupée par les Cananéens pour que ça devienne la possession perpétuelle d'Israël. Pays où coule le lait et le miel, alors tu t'acquitteras dans ce mois de ce service. Alors, dans le chapitre 10, les versets 20, on parlait, ce sont là les fils de Cam, selon leur famille, selon leur langue, dans leur terre et dans leur nation. Alors, on est en train de dire que aussi les nations qui sont issues de Cam ont contribué en quelque sorte, à étendre les nations sur toute la terre et à étendre le salut par la fin même. Et on tombe dans la dernière partie, qui est la descendance de Sem. Est-ce qu'on se souvient qu'est-ce que le mot de Sem voulait dire? Ça voulait dire le nom. Alors, le nom, c'était le nom de Dieu. Par Sem, le nom de Dieu était pour continuer à se perpétuer et à s'étendre sur toute la terre. C'est surtout par eux, par les descendants de Sem, que le nom de Dieu a pu continuer à se développer sur toute la terre. Alors, ça véhicule l'idée que la descendance de Sem, de cet individu-là, viendra à la conservation du véritable culte à Dieu et la venue du futur Messie. Les descendants de Sem furent reconnus pour leur zèle religieux, surtout les Juifs. Sem eut 5 fils. Là, on ne rentrera pas dans les détails non plus, parce que comme je vous dis, on pourrait passer beaucoup plus de temps, mais c'est de voir les noms. Eut 5 fils, Élam. On dit de Élam que c'est les Perses. Assur, les Assyriens. Arpachshad, les Babyloniens ou les Chaldéens, Lud, les Lydiens et Aram, les Syriens. Est-ce que c'est des noms que plus tard, dans les Écritures, on va rencontrer? Oui. Alors, il parle de deux noms Je dirais qu'il y a trois noms qu'on pourrait étudier les noms en particulier, chacun d'eux, mais il y a trois noms qui sont importants pour comprendre le reste du développement du livre de la Genèse qui va se produire après. Les voici. Le premier, c'est Héber, dans le verset 24. Et Arpakshad engendra Shélakh, et Shélakh engendra Héber. Le mot hébreu, le nom hébreu, on parle du peuple hébreu, vient de Héber. Alors, Héber, c'est, on pourrait dire, un des personnages par qui le peuple d'Israël est venu. Et il y a un autre nom qui est mentionné. On parle de, dans le verset 25, de Péleg. Et qu'est-ce que Péleg veut dire? Péleg veut dire partage. Alors, au moment où Nimrod a voulu construire sa tour de Babel, il y a eu un partage entre les hommes. Il y a des hommes qui ont voulu suivre Nimrod et son idée, puis il y a des hommes qui n'ont pas voulu embarquer là-dedans. Et c'est là que Péleg a joué un rôle, probablement qui était un leader, de ne pas vouloir embarquer dans l'idée de Nimrod. Car ça dit, car en son temps, la terre fut partagée. Et ensuite, il y a un autre nom. Alors, Héber, Abraham viendra de cette famille-là. Héber est associé au nom hébreu, souvent utilisé par les autres nations pour décrire Abraham et les Israélites. Par exemple, dans Genèse 14, verset 13, il dit « Il est question d'Abraham l'Hébreu ». Alors déjà, on sait que la lignée d'Héber vient de Sem, donc la lignée messianique, comme il était dit dans Genèse 3, 15, passerait par Héber, parce que Abraham aurait dans sa lignée hébreu, Héber. Donc, et Péleg, on vient de voir qu'est-ce que ça fait référence, probablement à l'incident de la tour de Babel où Péleg aurait pris position pour ne pas embarquer dans l'idée de Nimrod. Et il y a aussi Aram. Aram, on va voir pourquoi c'est important, parce qu'on va voir que plus tard, les Araméens, quelle langue on dit qu'ils se parlaient au temps que Jésus est venu? L'araméen. Alors, c'est important de voir Aram. L'auteur ajoute cette information concernant l'Aram. Aram, c'est probablement la Syrie moderne à cause des rapports étroits entre la famille d'Abraham et les Araméens. Dans Genèse 25, verset 20, ça dit « Bethuel, l'araméen, et Laban, l'araméen ». Pourquoi que le nom d'Aram est mentionné? Parce que ça donne des informations sur des choses qui vont se développer plus tard. Bethuel et Laban, on sait que ça a un rapport avec Jacob et tout ça. Alors, là, on va aller lire Luc 23, de 23 à 38. C'est important de faire un lien entre le chapitre 10 et les origines du Messie, selon les Écritures elles-mêmes. Ça dit Luc 3, verset 23-38, « Et Jésus était âgé d'environ 30 ans quand il commença, et il était, comme on le croyait, fils de Joseph, d'Élie, de Matthat, de Lévi, de Melki, de Janna, de Joseph, de Matati, d'Amos, de Naïm, d'Élie, de Nagé, de Mahat, de Matati, de Séméi, de Joseph, de Judas, de Johanna, de Ritsa, de Zorobabel, de Salatiel, de Néri, de Melki, d'Idad, de Kozam, d'Elmodam et de Er, de José, d'Éliézer, de Jorim, de Matat, de Lévi, de Siméon, de Judas, de Joseph, de Jotan, l'Eliakim, de Miléa, de Maïnan, de Matata, de Nathan, de David, de Jessé. Là, vous allez voir les noms, vous allez voir, ça se rapproche de plus en plus de ceux de la Genèse. De Jessé, d'Obed, de Boaz, de Salomon, de Naasson, d'Aminadab, d'Aram. On vient-tu de le voir, Aram? D'Aram, d'Esrom, de Pharès, de Judas, de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, de Taré, de Nakhor, de Sarug, de Raug, de Paleg, de Héber. On vient-tu de voir ça, le nom d'Héber? De Salah, de Caïna, d'Arphaxad, de Sem et de Noé. de Lamech, de Métushéla, d'Énoch, de Jared, de Mahalaël, de Caïna, d'Énos, de Seth, d'Adam, fils de Dieu. Voyez-vous, on prend l'origine du Christ à partir d'Adam et on la descend avec toute cette série de noms pour montrer que, oui, la prophétie concernant la venue du Messie par la lignée de Sem était pour s'accomplir. Et comment on peut... Quand on parlait tout à l'heure de l'utilité, on a parlé là-dedans qu'on a reconnu des noms. Hein? David, Abraham, Hébert, Sem, Noé. Le Seigneur est en train de montrer ce que j'ai dit. Voici, ça s'accomplit en Christ. Alors, l'étude attentive du chapitre 3 de l'Évangile de Luc démontre clairement que Jésus, le Christ, descend de la lignée de Sem. Alors, j'ai mentionné les noms tantôt, et on pourrait étudier ce passage-là encore beaucoup plus en profondeur, mais dans le fond, ce qui est à retenir de tout cela, c'est que le chapitre 10 est en train de préparer le terrain à la compréhension de ce qui s'en vient ensuite. D'abord, la confusion de la tour de Babel, que le Seigneur s'est servi de cet événement-là de rébellion contre sa volonté pour envoyer un jugement des langues différentes à tout le monde. Le monde ne pouvait plus être ensemble puis continuer de vouloir s'opposer à la volonté de Dieu, ce qu'on prenait plus. Ça se prendrait 10 hommes de 10 nations différentes, vous essayerez de les mettre sur un projet pour qu'ils bâtissent quelque chose ensemble. L'un, il va dire quelque chose, il va dire « Hein, je comprends pas. » Ils ne comprenaient plus rien. Alors, Dieu s'est servi de cet événement-là. Alors, Dieu est en train de nous préparer au fait que les 3 fils de Noé ont été les outils que l'Éternel a utilisés pour répandre les nations sur toute la terre et par ce fait-là, d'étendre son salut à l'ensemble des nations. Mais on sait que les Juifs, même s'ils avaient les Écritures, ils n'avaient rien compris parce qu'au moment où Jésus était venu, ils étaient certains que le salut ne pouvait pas aller à autre qu'à eux, malgré qu'ils avaient les Écritures. Ça démontre une chose. C'est que c'est possible qu'on ait les Écritures, puis qu'il y a des choses qui sont dites dans les Écritures, que Dieu est fidèle à sa parole, mais que nous, on n'a pas nécessairement tout compris. Je pense qu'il n'y a pas personne sur la terre, le plus grand théologien soit-il, qui peut dire que j'ai tout compris dans les Écritures. Moi, je suis convaincu que s'il y a le moindrement d'intelligence, il va dire « je comprends peut-être plus que la majorité des chrétiens, mais il reste que il n'a pas vraiment encore tout compris. C'est tellement riche, tellement profond. » Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir de l'étude? Et on ne parle pas d'une étude approfondie ce matin, on a juste fait un survol du chapitre 10 pour montrer qu'il ne faut jamais passer par-dessus un chapitre en disant que ça, je ne comprends pas pourquoi c'est là. Il y a des raisons à tout. Pourquoi on passe par-dessus qu'on trouve ça plate? C'est tout simplement parce qu'on est paresseux. On passe par-dessus, on n'essaye pas de comprendre pourquoi Dieu a mis cela. Il y en a des raisons. Chaque mot des Écritures, leur situation dans le texte est inspirée de l'Esprit de Dieu. Alors, il faut changer notre attitude. Quand on a une attitude comme ça, on pêche. On est en train de dire à Dieu, ce que tu nous dis dans les Écritures, ce n'est pas important. Non. À ce moment-là, soyons au moins humbles, dire « OK, ça ne m'intéresse pas plus qu'il faut, mais c'est extrêmement riche, peut-être plus riche que ma capacité et ma volonté de vouloir approfondir tout cela. » Alors, on va regarder 3 applications que le texte nous donne. La première, je pense qu'elle est importante. La Bible nous enseigne que la race humaine forme réellement une seule famille. Alors, les théories qu'il y a eu pendant la guerre 39-45, mais ce n'est pas la première fois, là, mais disons 39-45, c'est devenu plus évident, où le peuple allemand a voulu développer, puis ils ont mis des savants là-dedans, ils ont mis des personnes qui étudiaient les langues, des ethnographes, et ils ont voulu démontrer que l'origine du peuple allemand était différente des autres, et c'était supposément une race supérieure. Donc, en étant supérieur, les autres, c'est comme des petites fourmis qu'on peut écraser à volonté, et ils se disaient la race aryenne. Mais ça ne tient pas la route si tu examines leur théorie à la lumière des Écritures. juste à cause de Genèse 10, 32 et dans Actes 17, où ça dit que toutes les limites de la terre ont été établies par Dieu et toutes ces choses-là ont été... Et Genèse 10, 32, ça dit « Telles sont les familles des fils de Noé selon leur génération, dans leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations de la terre après le déluge. » Y a-tu mention d'un peuple supérieur à l'autre là-dedans? Ça dit que toutes les nations de la terre tirent leur origine de l'un ou de l'autre des trois fils de Noé. Alors, la table des nations, on a souvent le chapitre 10, dans les commentateurs anglophones, on appelle ça « the table of nations ». C'est vraiment l'endroit où on explique l'origine des nations. Rappelle qu'il n'existe pas de race supérieure. Quand les nations deviennent puissantes, elles ont souvent l'impression de descendre d'une autre branche que le reste de l'humanité. Paul rappelle aux Éthéniens orgueilleux, parce qu'à l'époque, c'était les Éthéniens qui avaient la maladie de se croire supérieur. Dans Actes 17, les versets 24 à 26, « Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples bâtis de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. » Et le verset 26 est un verset très puissant pour détruire ces fausses notions qu'une reine race supérieure à une autre. Verset 26, « Et il a fait, » on parle de qui? On parle de Dieu. « Il a fait d'un seul sang. » C'est plus puissant comme déclaration. « Toutes les races des hommes. » Donc, le sang supérieur, supposément des Ariens, ça ne tient pas la route selon les Écritures. « Pour habiter sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation. » Autrement dit, toutes les frontières qui ont existé dans l'histoire ont été soit agrandies, soit réduites, et ils ont eu des époques qui ont été déterminées par Dieu lui-même. C'est ça que ça dit. « Ayant déterminé la durée précise et les bornes de leurs habitations » en parlant des nations. C'est fort, ça, ce verset-là, très fort. Deuxième application, le Seigneur a créé les nations pour qu'eux aussi profitent de la grâce du salut. Il a le parfait contrôle sur elles, les nations. On va lire dans Luc 4, 3 versets, les versets 17, les versets 25 et les versets 37, où on voit la domination de Dieu sur l'ensemble des nations de la terre, sur toutes les époques, même la nôtre. Bien entendu. Verset 17, la sentence est rendue par le décret des veillants, et la décision est l'ordre des saints, afin que les vivants sachent que le souverain domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il veut et qu'il y élève le plus abject des hommes. Verset 25, on te chassera du milieu des nations, et ton habitation sera avec les bêtes des champs. On parle du roi le plus puissant de l'époque, là. Tu seras nourri d'herbes comme les bœufs, comme les bœufs. Tu seras rempli, tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Verset 37, « Maintenant, moi, Nabuchodonosor, » là, il était revenu à ses esprits après 7 ans, il dit, « Je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont véritables et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Il en savait quelque chose. Il l'avait expérimenté. Imaginez-vous, le roi le plus puissant de l'époque allait manger de l'herbe dans le champ comme un bœuf. C'était pas trop une... C'était un petit peu humiliant pour lui. Deutéronome, chapitre 32, versets 8 et 9. Autre verset qui est important pour la compréhension de l'ensemble des Écritures, Voyez-vous, on parle de domination des nations, donc de domination théocentrique, mais on va parler d'une autre sorte de domination, la domination israélocentrique. Dans le verset Deutéronome 32, les versets 8 et 9, ça dit « Quand le Très-Haut donnait leur lot aux nations, quand il séparait les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples selon le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est le lot de son héritage. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est qu'il a organisé les nations autour d'Israël. Il dit « fixa les limites des peuples selon le nombre des enfants d'Israël. » Autrement dit, il a organisé que l'opposition qui se faisait autour d'Israël soit balancée. Parce que s'il avait voulu, il aurait permis qu'une nation autour soit tellement puissante qu'il aurait écrasé Israël. Autrement dit, c'est en train de dire que Dieu avait organisé les nations qui étaient autour d'Israël dans le but de maintenir une balance de pouvoir. On parle souvent de la balance de pouvoir. Et la troisième implication, c'est Jésus-Christ, bien entendu, est le fil conducteur et le centre de l'histoire humaine. Moi, j'aime beaucoup en anglais, ils vont souvent dire l'histoire des hommes, history, mais ils vont prendre le is story, puis ils vont mettre un trait d'union entre le is et le story. Ils vont dire, l'histoire du monde, c'est his story. Alors, dans le fond, l'histoire du monde, on ne peut la comprendre et bien l'interpréter qu'à la lumière du fait que tout ce qui se déroule, c'est Christ est au centre. Même si on ne comprend pas toujours, c'est une réalité quand même. Alors, les promesses, le chapitre 10 de la Genèse nous prépare à l'histoire de l'appel du Père des croyants. Voyez-vous, si on n'avait pas ce chapitre-là, on aurait de la misère à comprendre d'où Abraham il sort. Et à la promesse divine de bénir toutes les familles de la terre par ses habitants. Galates 3.16, on le reprend, Galates 3.16, c'est un verset important. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et à ses postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule. « Et à ta postérité qui est Christ ». Les promesses que Dieu fait à Abraham, il les fait à Christ et à ceux qui sont en lui. Très important de saisir ça, là. Si on ne saisit pas ça, là, quelque part, on va avoir des problèmes dans la compréhension des Écritures. Alors, on va terminer là-dessus. Que notre grand et glorieux Seigneur soit béni pour nous avoir envoyé le Messie en la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Amen.